conditions et modalités s'appliquent.
Le week-end du 14 février, direction le village nordique du Port de Québec pour le festin hivernal présenté par Barbecue Québec. Sur place, l'équipe de Barbecue Québec vous fait découvrir le barbecue en hiver avec de savoureuses dégustations préparées. De nouvelles saveurs, une ambiance chaleureuse et le plaisir de manger dehors, même en février. Profitez-en pour combiner pêche sur glace et plaisir gourmand. Réservez votre place dès maintenant au villagenordique.portquebec.ca.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Ça faisait un bout que je voulais faire un podcast avec lui, puisque normalement, j'avais la chance de lui jaser seulement 5, 10, 15 minutes. C'est un homme qui est extrêmement occupé. On le voit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. On le voit en chronique sur les ondes de TVA. On l'entend une fois de temps en temps sur nos ondes aussi. C'est un plaisir de l'accueillir. Luc Laliberté, chroniqueur politique. Un historien, ce Luc Laliberté-là. Comment ça va?
Ça va très bien. Très content aussi d'avoir plus de temps pour te parler. C'est vrai que on arrive à bien faire les choses, je crois, en 10-12 minutes. Mais ouais, là, on a un petit peu plus de temps, donc profitons-en.
Qui est Luc Laliberté? Tantôt, je regardais ton pedigree, un peu ton CV, puis j'ai vu que tu étais un passionné d'histoire, que tu venais pas de Montréal, que tu venais pas de Québec, et pourtant, maintenant, ta carrière se fait surtout à Montréal et à Québec. Mais là, je sais pas, t'habites où présentement. Ça semble bien aller. Mais t'es un gars de Shawinigan?
Non, je suis un gars de Trois-Rivières. Je suis arrivé à Québec, je suis toujours à Québec, mais je suis arrivé à Québec pour des études qui devaient être en droit, mais j'ai toujours eu une passion pour l'histoire, donc je me suis dit, tiens, on fait un détour par l'histoire, je vais voir, et je suis jamais reparti. Et je suis le genre de gars, ça peut paraître étrange, parce que j'ai enseigné pendant des années, et les jeunes me demandaient souvent, Luc, comment t'as fait pour savoir ce que tu voulais dans la vie, parce que 17, 18, 19 ans, c'est le genre de questions qu'ils ont, puis je suis le genre de gars qui a jamais eu de plan de match. C'est-à-dire que je pars souvent sur un coup de cœur. Faut que j'aime ça, faut que ça me nourrisse. Puis ensuite, le côté rationnel arrive. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Mais c'est souvent par des coups de cœur. Donc, j'avais pas de plan de match pour l'enseignement. Je suis un ancien décrocheur et un petit bum. Donc, ça te donne une idée.
T'es un ancien décrocheur et un petit bum. Tabarouette, sérieusement, avec tes lunettes un peu étello, j'aurais jamais pensé que t'étais un décrocheur puis un petit bum.
Mon père n'est plus avec nous, mais tu aurais eu une belle conversation avec lui, parce qu'à un moment donné, il a craint que je prenne vraiment le mauvais côté. Ouais. Donc, j'ai probablement l'air beaucoup plus straight aujourd'hui, mais oui, j'étais effectivement, quand les jeunes disent « je suis un décrocheur » ou « je reviens aux études », souvent ça me touchait un petit peu plus, parce que je me disais « j'ai emprunté ce chemin-là aussi ». Mais donc, après être allé en histoire, tout à fait par hasard, à un moment donné, il y a quelqu'un qui appelle mon employeur pour dire « on cherche quelqu'un pour parler d'histoire américaine. » Et j'ai commencé comme ça au 98.9, ça fait 21 ans. Mais après ça, je suis passé par Radio-Canada, je suis passé par toutes les plateformes de Québécois. J'étais là quand on a lancé Boulevard, puis j'y reviens maintenant avec toi puis avec Jeff. Donc, je trouve ça le fun. Et j'ai la chance de m'entretenir aujourd'hui avec des politiciens, de faire des conférences, d'offrir des formations. Mais donc, tout ça est venu, c'est le côté un peu plus rationnel et organisé. Mais c'est toujours parti d'un coup de cœur au départ. Puis l'histoire américaine, c'est la même chose. Ça se jasait dans ma famille, c'était bien mystérieux. Je me demandais pourquoi des Québécois étaient préoccupés par la politique américaine ou l'histoire américaine. Puis à un moment donné, c'est devenu un travail. Au-delà d'une passion ou d'un mystère, d'un intérêt, bien, c'est littéralement devenu, en bon Québécois, ma job à temps plein.
Ouais. Ce que je peux lire dans un article qu'on a fait sur toi, c'est que Luc Laliberté, petit, était fasciné par un buste de John F. Kennedy qui occupait une place de choix dans la maison d'une de tes tantes et tu y allais souvent. Ça a été ton premier rendez-vous avec l'histoire, voir ce buste-là de John F. Kennedy?
Il y a deux ou trois choses. Je pense que tu réfères à l'article de Karine Gagnon. Là,
oui.
En discutant avec Karine, ça, elle disait « mais ça vient d'où? » Et je disais « c'est vraiment arrivé par la bande. Je pensais pas faire ça. » Et il y a eu deux incidents ou deux événements, deux épisodes quand j'étais jeune. Cette tante-là, j'étais appelé parfois à coucher chez elle parce qu'elle me gardait quand j'étais jeune. Et le bus de Kennedy me terrorisait parce que je le trouvais laid. Et un jour, je lui ai demandé c'était qui. Puis elle l'a dit, c'est un président américain, John F. Kennedy. Puis ça m'est resté dans la tête jusqu'au cégep, à l'université.
Ouais.
Pourquoi une Québécoise était fascinée par un président américain autant? Et pourquoi celui-là? Et l'autre chose que je racontais à Karine, et je ne me rappelle pas si ça a été transposé dans l'article, mais dans nos parties des fêtes, chez Lille de la Liberté, on avait une grande famille, et c'est une famille de parties. Et je le voyais une fois par année, à chaque grande fête, ça durait 2-3 jours. Là. On se promenait, puis c'était vraiment un très, très gros party. Il y a un Noir américain qui se joignait à nous et qui vivait au Québec. Et j'ai appris plus tard, j'ai jamais su son vrai nom d'ailleurs, on l'appelait Skip. Et ce que j'ai retenu de lui, deux choses. D'abord, sur le piano, c'était littéralement une bête. Et c'est du blues qu'il jouait essentiellement. Et je suis devenu amoureux du blues avec lui. Et j'ai appris que ce gars-là, qui est toujours entouré d'un mystère pour moi, la raison pour laquelle il était au Québec, c'est qu'il ne voulait pas aller combattre au Vietnam. Donc, comme bien des gens, il a déserté les États-Unis. Puis finalement, de mémoire, il n'a jamais quitté le Québec. Il est décédé ici, au Québec. Donc, pour dire parfois qu'est-ce qui nous attire vers un sujet, puis qui fait qu'après ça, on va au-delà de l'anecdote personnelle pour rendre ça un petit peu plus sérieux, un petit peu plus méthodique, professionnel. Mais ce sont des anecdotes de l'enfance qui font que aujourd'hui, je me retrouve avec toi, puis on parle de politique.
Ouais. Est-ce que vous étiez très politisé? Je lisais aussi que ton grand-père contribuait à l'époque de Maurice Duplessis. Là. Il était dans ses campagnes, de ce que je comprends, il contribuait.
Voilà, donc il a travaillé pour, et ça aussi, ça a été drôle pour les études universitaires, c'est tout jeune, puis là on parle tout jeune, là, même avant l'adolescence, ça parlait politique tout le temps. Et quand mon grand-père en parlait, à l'époque c'était l'Union nationale, ça c'était sa formation politique, et Maurice Duplessis c'était comme un héros, il n'y avait pas de défaut. Pour eux, c'était un bon orateur, c'était un homme intelligent, et des années plus tard, moi qui ai baigné dans ce milieu-là tout jeune, quand je commence à étudier, parler, je dis « ok, parlez un petit peu ». L'histoire, ça peut être plus complexe que ça. Il y a plus qu'un côté à une médaille.
Il fallait que tu retires un peu ton billet là, que tu avais sur Maurice Duplessis.
Voilà, et c'est ça qui rend ça intéressant. Ouais. Parce que souvent, tu vois, même quand on couvre l'actualité, on a tous, peu importe notre travail, on a tous des valeurs personnelles. Ben on a tous un certain nombre de préjugés et de biais. Et ce qui est le fun ensuite avec ma formation en histoire et ce que je fais dans les médias, c'est... J'ai encore des valeurs aujourd'hui, j'ai encore des biais personnels, des choses que j'aime ou je n'aime pas, mais c'est comment on appréhende finalement les choses qu'on voit au-delà de ces préjugés-là. On a quoi comme méthode, on vérifie comment, on s'informe où, on s'informe auprès de qui. Donc, c'est le fun parce que dans mon parcours à moi, je vis ce que les gens vivent au quotidien quand ils couvrent l'actualité. Mais normalement, si je fais bien mon travail et si j'ai bien étudié, j'ai appris à composer avec ça. Donc, quand j'écris, c'est pas Luc la Liberté ce qu'il ressent quand il jase avec sa blonde dans le salon ou avec ses enfants. C'est Luc la Liberté qui a une job à faire, puis voici comment on peut expliquer ou faire le ménage dans l'info que les gens reçoivent.
Quand on étudie l'histoire, puis j'imagine que vous êtes formé justement pour pas que ça arrive, mais quand on étudie l'histoire, on se rend compte assez vite que l'histoire a toujours été écrite par ceux qui ont réussi à conquérir l'autre partie. Est-ce que c'est complexe pour vous autres d'aller chercher la vérité dans tout ça? Parce que, tu sais, si on pose la question à un Amérindien sur les débuts de l'Amérique, il y aura probablement pas la même version que moi j'ai appris à l'école, là,
ça, c'est intéressant. Puis quand tu dis la vérité, c'est peut-être le commentaire le plus angoissant que je faisais à mes étudiants en début d'année quand je leur expliquais c'était quoi l'histoire. Si vous cherchez la vérité, ça n'existe pas. Il y a plusieurs facettes à un problème. Il y a souvent des hypothèses qu'on peut. Il y a des faits sur lesquels on va s'entendre. Il y a des choses qui surviennent en une année précise. Le 11 septembre 2001, c'est le 11 septembre 2001 pour tout le monde. On ne change pas la date. Maintenant, on le sait en plus, les complotistes, il y en a toujours eu, mais ça s'est ajouté à ce dossier-là, mais c'est quels sont les angles qu'on peut étudier et qui est l'historien qui est derrière ça? Là, je leur disais, au-delà des grands courants historiographiques, les grands historiens dont on s'inspire sur la façon de faire l'histoire, je demeure un gars de Québec qui commente sur la politique américaine ou la politique mondiale, mais à partir de mon cocon à moi, à partir du milieu ici, donc... Ça, je suis certain qu'on va retrouver quelqu'un à Kaboul qui peut écrire l'histoire. Et il y a fort à parier qu'en partant, on a déjà des angles différents. Même si on se considère professionnel de part et d'autre, il y a déjà des cultures dans lesquelles on baigne qui sont à des années-lumière de différence, bien souvent. Donc, ça rend le jeu passionnant parce qu'on n'atteint pas la vérité, ça demeure un idéal. On veut se rapprocher d'une interprétation des faits qui est la plus correcte et la plus complète possible. Mais Dieu qu'il y a des pièges, Dieu qu'il y a des écueils, et dans notre milieu comme dans d'autres, ils ne sont pas majoritaires, il y a des gens qui en profitent aussi chez les historiens pour pousser les agendas. Je le vois aux États-Unis, je le vois ici. Donc, et bien sûr, il faut toujours compter sur les politiciens pour récupérer notre histoire aussi. On a plein de débats ces jours-ci au Québec. Hein? Mark Carney et Paul Saint-Pierre Plamondon
oui.
se répondent à partir de l'histoire canadienne. Puis dans les deux cas, je peux juste dire que si c'est les réponses qu'ils ont offertes aux examens, ils ont été mal formés ou ils n'ont pas étudié les mêmes historiens, c'est clair.
Ah, ben tiens, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Peut-être qu'on pourrait y revenir dans une de tes prochaines chroniques. Est-ce que tu vas lire des fois sous tes chroniques quand on met les chroniques sur les réseaux sociaux? quand on parle de Donald Trump, là, et là, toi, tu fais une chronique sur ce qu'il a fait, est-ce que tu vas lire les commentaires en dessous, Luc?
Écoute, Je l'ai fait pendant un temps pour prendre le pouls. Je voulais savoir, en gros, parce que je suis chroniqueur, je ne suis pas animateur. Ça change aussi la donne. Là, mais je voulais savoir quelle impression les gens ont. Et il y a des endroits où ce que je lis est très positif. Puis parfois, honnêtement, c'est même exagéré. C'est comme je suis une voix parmi d'autres. Mais c'est tout aussi exagéré, mais beaucoup plus violent de l'autre côté, chez ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, je me disais, je ne considère pas être quelqu'un comme chroniqueur qui met le feu nulle part. Je ne suis pas sensationnaliste. Je ne pense pas être baveux pour qui que ce soit non plus. Je n'insulte jamais les gens. Et ça me sidère toujours de voir que le moindre sujet qu'on évoque maintenant, même si on a des preuves, même si on a des faits, ça puisse susciter des réactions aussi violentes que ça. Dans le pire des cas, j'en ai parlé récemment, c'était des menaces de mort.
No.
On va te trouver ou on va trouver ta blonde. Et là, ça oblige à mettre ça en perspective en disant c'est correct. Quand on sort la tête sur la place publique, on s'attend à se faire brasser. Peu importe ce qu'on dit aujourd'hui, on le sait. Il y a toujours quelqu'un pour mettre le feu après. Mais quand ça touche ma blonde ou que ça touche mes enfants, là, c'était comme OK, moi, je m'amuse et je prends du plaisir. Je travaille sérieusement, mais je m'amuse à faire ça. Mais quand on empiète sur la qualité de vie pour ma blonde, pour mes enfants, j'ai une fille qui est assez vieille pour réaliser ce qui se passe. Là, c'est comme, attendez un peu, là, j'ai quand même des preuves, des faits quand j'avance. Mais on est dans cette période-là, puis on retrouve un petit peu ici, je pense, malheureusement, ce qu'on voit aux États-Unis. Je pense que c'est pire aux États-Unis, puis c'est un pays qui a une histoire, ça aussi, c'est assez objectif. C'est une histoire qui est violente. À plein de moments dans son histoire, on a eu recours à la violence, puis on le voit encore. Le risque de dérapage violent, il peut pas être plus réel que présentement. Mais ça semble avoir traversé la frontière. Et avec les réseaux sociaux, tu le sais comme moi, c'est pire. Donc, je lisais les commentaires, puis je voulais voir ceux qui me reprochent des choses. Ils disent quoi au-delà de la violence puis des étiquettes? Là, mes lunettes rouges, c'est fou comment ça fait parler. Là. Je suis communiste, je suis gay. On est encore là en 2020. Donc, il y a des choses qu'on prend avec un grain de sel, il y a des choses qu'on met de côté. Mais en même temps, je me disais, OK, c'est là-dessus qui accroche. Puis de l'autre côté, ceux qui aiment ça, ou ceux, ça aussi, il ne faut jamais les sous-estimer.
Ouais.
Il y a des gens critiques, mais avec des critiques très élaborées, puis de très bonnes questions. Et ça, j'adore ça. Et ça m'arrive de relancer des auditeurs ou des lecteurs quand j'ai une question qui est bien amenée. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais j'ai des arguments, on peut avoir une conversation. Ça m'arrive de les relancer. Je ne peux pas faire ça avec tout le monde, mais ça m'arrive de le faire. Donc, je le fais beaucoup moins qu'avant et c'est essentiellement pour préserver ma joie de vivre puis ma santé mentale.
Non, mais c'est ça. C'est un peu le même conseil que je donnerais à quelqu'un qui s'est fait sacrer là cette semaine. Samedi, là, lâchez les réseaux sociaux, les amis, c'est la Saint-Valentin. Là. Fait que si vous êtes en peine d'amour, allez pas sur les réseaux sociaux. Mais cela dit, dans le monde dans lequel on est, avec la job qu'on fait, il faut devenir blindé à un moment donné. Mais oui, quand ça touche nos enfants, quand ça touche notre entourage.
J'ai toujours dit à ma blonde, il y a une ligne. Le temps aussi longtemps que les gens vont continuer à m'appeler, je vais faire mon travail.
Ben
si j'ai moi à quitter un jour, c'est si ça dépasse ce que j'ai reçu dernièrement, là on ferme les livres puis on fait autre chose.
Ouais.
Je le fais vraiment par passion, par plaisir. Donc en même temps, je suis encore plus passionné par ma famille, par mon petit noyau familial. Donc si ça, c'est menacé ou que c'est la quiétude et plus au rendez-vous, c'est comme, OK, on met la clé dans la porte et on fait autre chose.
Je comprends très bien. Écoute, j'ai plein de sujets à aborder avec toi.
Oui.
Tu as étudié en histoire, tu en as vu passer des présidents des États-Unis. On parlait de John F. Kennedy tantôt. Te souviens-tu d'un président qui a attiré autant d'amour et autant de haine en même temps?
Je l'aimais. S'il y a une chose que je peux dire, et comme historien, on fait souvent attention aux grandes déclarations, les historiens, là-dessus, je suis sûr, puis je serais prêt à écrire là-dessus ou à pas jaser longtemps, on n'a rien vu dans toute l'histoire américaine qui se compare à la totalité de ce qu'est et de ce que fait Donald Trump. Il y a souvent des gens qui disent « Ouais, mais écoutez, c'est pas le premier menteur, c'est pas le premier corrompu. » C'est vrai. Bill Clinton a vécu des épisodes particulièrement troubles.
Une pipe, c'est pas une relation sexuelle. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Là.
Voilà.
Une pipe,
c'est pas une relation sexuelle. Et c'est à l'époque où on n'avait pas légalisé la marijuana encore. Rappelle-toi qu'il a fumé, mais il a pas aspiré non plus.
Il a pas donc, inhalé.
Il a pas inhalé, voilà. Donc, il avait dit ça à Arsenio Hall à l'époque. Il jouait du saxophone, mais... il aspirait pas son pote, il a pas inhalé son pote. Donc, ça aussi, les gens se rappellent, ça a déjà été fou, là, c'est pas la première fois. Ouais. Richard Nixon, les gens disent, ouais, mais le Watergate, là, c'est gros, regarde, oui. Il est pas pire que... il est pire que ça, c'est certain. Il a été... Nixon, ce qui était choquant, c'est qu'il parte et qu'on lui accorde un pardon présidentiel sans qu'il ait jamais eu à rendre de compte. Ça, si je suis un Américain, républicain ou démocrate, je suis en maudit, parce que le gars va être coincé. Et il décide de démissionner, puis celui qui lui succède dit, ben écoutez, on va acheter la paix, là, on va acheter le calme aux États-Unis, puis je vais lui accorder une grâce de sorte qu'on mette fin à cet épisode-là. C'est choquant. Je pourrais te remonter dans les années 20, William Harding, il y a un de ses secrétaires qui a eu à payer, c'est un scandale, en fait, on jouait avec les terres de la couronne ou les terres de l'État, et c'est un de ses secrétaires ou un de ses ministres qui a fait un deal avec des grandes compagnies pour leur vendre des terres qui devaient revenir à l'État, il y a un trafic d'influence. Lui a été condamné, mais est-ce que quelqu'un dans la présidence américaine, puis je pourrais te remonter ça jusqu'à George Washington, est-ce que quelqu'un a fait tout ce que Donald Trump a fait en divisant volontairement autant sa population? Il n'y a rien, il n'y a pas de comparable dans l'histoire des États-Unis.
Puis selon toi, dans, mettons, si on y va de ton point de vue là, par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui fait que cet individu-là a créé autant d'émotions? C'est la façon dont il s'est monté en tant qu'homme d'affaires, c'est sa réputation, c'est le fait que Trump, ben, c'est rendu un trademark, là. C'est pas juste un président, là. C'est une entreprise carrément. Tu passes devant ses hôtels, puis il y a des produits de Donald Trump à grandeur. Ça se demandait s'il n'y a pas des dildos de Donald Trump dans ses hôtels. C'est-tu le fait qu'il y a des gens qui sont tellement à gauche là, qui voient un homme d'affaires arriver comme président des États-Unis, puis il aurait fourré du monde par le passé, il a dit des affaires qui n'avaient pas de bon sens, comme « grab them by the pussy ». Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, de ton point de vue de l'histoire, que les gens le détestent autant?
Qu'il puisse être détesté autant, je pense que c'est le nombre de déclarations. Parce que je comprends très bien les motifs pour lesquels il n'y a plus au départ, puis assez pour qu'on le réélise. Puis il y a des choses, honnêtement, où je rejoins les partisans de Donald Trump. Donc, ça, ce bout-là, je le comprends. La réaction, c'est tout ce qu'on imagine comme prof. Là. Et souvent, comme parents, on se considère un peu comme des profs aussi. Là. C'est l'école de la vie. Hein. C'est les examens sont brutaux, puis tout le monde les passe, les enfants comme les parents.
Ouais.
Mais Donald Trump, c'est tout ce qu'on enseigne à nos enfants à ne pas être. Et sa carrière d'homme d'affaires, c'est toujours tester les limites. C'est tester les tribunaux, c'est frapper sur les plus faibles parce qu'on a l'argent pour les traîner devant les tribunaux et eux vont finir par abandonner faute de ressources. Et c'est quelqu'un qui, autant dans sa campagne électorale que dans sa façon de gérer, autant dans le premier que dans le deuxième mandat, qui n'a aucun filtre et aucune espèce de décence pour le respect de la vie humaine. Donc, c'est le premier président, puis pourtant, il y a eu une guerre de sécession aux États-Unis.
Ouais.
C'est le premier président que je vois insulter à répétition, de manière grossière, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc, je peux comprendre la colère de ceux qui ont voté pour lui. Mais habituellement, tu sais, regarde un exemple, tiens, ça va peut-être être plus simple. On a vu le spectacle de Bad Bunny au Super Bowl.
Oui.
Et chez certains républicains, pas tous, puis des commentateurs de droite, on a dit, ouais, Bad Bunny, c'était pas très rassembleur. D'abord, il a parlé en espagnol tout le temps. Et en voyant ces commentaires-là, entre autres d'animateurs de Fox News, parce que j'écoute Fox News aussi pour prendre le pouls de ce qui se fait là, là, j'ai éclaté de rire en disant, écoutez, vous reprochez au gars qui anime le show du Super Bowl, le spectacle à mi-temps, de ne pas être rassembleur. Vous avez choisi qui comme président? C'est qui votre héros pour diriger les États-Unis? Venez pas me dire que ce gars-là fait des grands efforts pour rassembler sa population. Il parle essentiellement à sa base et tout le reste est insulté, discrédité. Puis on entretient la plus grossière et vulgaire de la désinformation autour des adversaires. Donc, je pense que ça, c'est comme... Je pense d'ailleurs, ça, c'est l'historien, mais là-dessus, ça me prendrait des bémols à un moment donné. C'est comme le gars qu'on craignait qui arrive au pouvoir quand on a créé les États-Unis. Parce qu'il faut se rappeler que les Américains ne votent pas directement pour leur président. C'est plus complexe et technique, là, mais il y a des grands électeurs, il y a un collège électoral. Et si ça, c'est en place, c'était justement pour éviter que quelqu'un comme Donald Trump prenne le pouvoir. Mais on n'a pas scellé la Constitution pour éviter que quelqu'un comme ça se glisse dans les cracks ou se glisse dans les failles de la Constitution. Et là, on se rend compte, moi le premier, que finalement, les notes de bas de page dans nos notes de cours ou dans nos lectures sur la Constitution, bien, l'équipe qui entoure Trump profite de chaque petite faille ou de chaque petite note de bas de page où on se disait, on met ça là, mais on n'aura pas à s'en servir ou personne ne va aller jusque-là. Trump va jusque-là.
Ouais. J'ai regardé le premier mandat de Donald Trump, puis ouais. J'avais un bilan qui était somme toute avec un petit plus là, dans le bas de la feuille. Pour ce qui est des guerres, c'est le président qui voulait arrêter les guerres. Il n'y a pas eu de guerre avec Trump dans son premier mandat. Pour ce qui est de l'économie aux États-Unis, ça n'a pas si mal été que ça si on enlève l'étape là, de la COVID, on va se le dire.
Ça, c'est vrai, il faut être honnête aussi. L'étape de la COVID,
qui a été une catastrophe. Mais quand je voyais ses détracteurs avoir peur d'un deuxième mandat, j'étais comme du côté de Donald Trump, elle dit, ben voyons, non, son premier mandat n'était pas si pire que ça. À quoi vous attendez du deuxième? Tu sais quoi, j'étais obligé de faire un mea culpa, là, v'là deux semaines. Je pense que c'est v'là une semaine ou deux semaines quand il y a eu la fameuse vidéo avec Barack Obama puis sa conjointe avec des corps de singes, là, tu sais. Ça, là, je veux dire, des gens qui défendent ça, les amis, là, éloignez-vous de ces gens-là. Moi, j'ai beau avoir dit le premier mandat de Trump, ça avait quand même du sens. Ce deuxième-là, moi, avec ces images-là, tu peux pas être intelligent et être consciencieux et être le président de 340 millions d'Américains puis faire une affaire comme ça. Je pense que c'est avec toi que je discutais. Tu sais, dans ton Secret Service, il y a des gens qui sont prêts à mourir et qui sont noirs. Sont prêts à mourir pour toi et qui sont noirs. Dans ton armée, il y a des gens qui sont nés en sol américain, sont noirs, ils s'en vont ailleurs pour faire respecter la liberté, pour pas que les méchants viennent chez nous aux États-Unis, puis toi, tu t'en vas faire une affaire comme ça à Barack Obama et sa conjointe. C'est juste cave. Puis les gens qui défendent ça, Luc, je comprendrai jamais.
Moi non plus, mais malheureusement, ça c'est, et c'est pas tous les partisans de Donald Trump. Mais Donald Trump a parlé à des gens aux États-Unis qui, avant, restaient discrets. Ils étaient dans l'ombre. Mais ce fond-là de racisme, malheureusement, puis on en a ici aussi, je pense que c'est marginal, mais aux États-Unis, il a parlé à ces gens-là, puis il leur a comme donné, il a comme validé, finalement, leurs paroles en tenant des propos comme ça. Tu parlais de l'armée, juste un exemple, mais pour bien montrer où on est, là. Il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines qui ont combattu pour l'armée américaine. Certains l'ont fait dans des conditions épouvantables, des conditions qui étaient pires que celles des soldats blancs qui allaient au combat et qui ont sacrifié leur vie. Et une des premières décisions de Pete Hegseth, qui est un suprémaciste blanc, donc le secrétaire à la guerre, ça a été d'effacer, de demander à ce qu'on efface dans les photos des archives du Pentagone, qu'on enlève les images, par exemple, des soldats Navajo. Les Navajo, les gens se rappellent peut-être d'un vieux film avec Nicolas Cage, The Code Talkers ou The Wind Talkers. Ces gens-là, parce que leur langue était particulièrement complexe et qu'on n'arrivait pas à la décoder, on les utilisait sur les champs de bataille pour passer l'information entre les régiments ou entre le commandement et le régiment. On a fait effacer ces photos-là. Ouais.
Les Navajo, c'est les Premières Nations.
C'est les Premières Nations. On a arrêté de retirer des photos de Noirs américains parce qu'à un moment donné, il y a même quelqu'un qui a retiré la photo de Jackie Robinson. Et là, on a dit, oups, attends un peu, Jackie Robinson, il n'est pas important dans notre histoire, lui. Pas plus important que les soldats qui ont servi dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, ça a fait comme réaliser aux gens, on est en train d'effacer l'histoire puis de whitewasher ou de blanchir l'histoire. C'est là où je débarque du train, puis Malheureusement, puis je n'avais pas de boule de cristal, je ne suis pas étonné de ça. Pendant le cycle électoral, j'ai écrit avant l'élection de Donald Trump à peu près ce qui se passe, pas dans le détail, mais à peu près ce qu'on voit aujourd'hui. La différence entre les deux mandats, et peut-être que ça explique pourquoi tu déchantes ou tu disais « j'ai fait mon mea culpa », la première fois que Trump a été élu, il y avait beaucoup de gens dans son entourage qui étaient là pour servir de garde-fou ou de chien de garde. C'est-à-dire qu'on le sait que Trump, c'est un numéro, on sait que Trump est capable de dire un tas de choses. Puis les gens aiment ça parce que finalement, on dit, contrairement aux autres, lui, il n'a pas la langue de bois. C'est pas toujours chic, mais au moins, hein, il n'a pas la langue de bois. Et dans un sens, c'est vrai. Mais ces gens-là qui servaient de garde-fou, de rempart, ils ne sont pas là dans le deuxième mandat. Et ceux que Trump a choisis, ils se sont préparés pendant 4 ans à prendre le pouvoir aux côtés de Donald Trump. Et ce qu'on voit finalement, c'est Donald Trump sur les stéroïdes qui va excessivement rapidement dans tout ce qu'il a entrepris de faire depuis l'investiture, jusqu'à maintenant. Donald Trump savait qu'il avait 2 ans jusqu'aux élections de mi-mandat pour appliquer son programme. Obama savait ça aussi dans son premier mandat, quand il a passé Obamacare, par exemple. Donc, ce qu'on voit cette fois-là, c'est Trump entouré de gens qui pensent à peu près la même chose, qui se sont préparés, qui avaient déjà rédigé un plan de match et qui l'appliquent à une vitesse vertigineuse. Et ça va durer comme ça au moins jusqu'au mois de novembre 2026. Donc, je pense que je vais vivre, après 21 ans dans les médias, je pense que je vais vivre l'année électorale, je ne te dis pas que parfois je n'aurai pas le tournis, mais la plus folle depuis que je couvre ça. Et j'ai couvert Trump, j'ai couvert la folie Obama au début aussi. Là, c'était très, très, très gros, l'engouement d'Obama, beaucoup trop gros pour ce qu'un seul homme est capable de faire. Mais je pense que tout ça va prendre le bord et que c'est l'année électorale la plus folle que je m'apprête à vivre.
Est-ce que, avant d'arriver aux midterms, là, est-ce que, bon, en fait, on pourrait dire, est-ce que les midterms, là, une fois qu'on va avoir passé ça, on va pouvoir dire que le ice représente un peu un caillou dans les souliers de Donald Trump?
C'est faudra voir aussi comment il va utiliser ICE pendant la campagne électorale, mais le jour du scrutin. Parce qu'une des choses qu'on craint, il y a plusieurs gestes que l'administration a posés depuis son retour pour interférer avec le déroulement de l'élection 2026. Et une des choses qu'on propose, c'est littéralement d'avoir des agents de ICE dans certains États, comme par hasard démocrates, qui vont surveiller les bureaux de vote ou les bureaux de scrutin. Et l'effet que les gens craignent, c'est que des gens qui ont un profil d'immigrant, mais qui sont citoyens américains, pourraient ne pas aller voter parce qu'ils ne veulent pas être embêtés par les agents de ICE. Parce qu'on en a arrêté des citoyens américains, mais dont la peau était plus foncée que la tienne et la mienne, et ces gens-là ont subi donc les contre-coups. Si l'élection se déroule normalement, oui, ICE, c'est un très, très gros caillou dans la chaussure. On se parle aujourd'hui, puis on est en pleine période de Jeux olympiques. Les athlètes qui se sont exprimés jusqu'à maintenant, ils disent « on est fiers d'être Américains, on est fiers de représenter les Américains, mais il y a des choses qu'on n'aime pas ». Probablement que les gens qui nous écoutent ont remarqué que c'est ICE qui ressort tout le temps. Donc, ce qu'on trouve, c'est qu'on en a fait la police personnelle, finalement, de Donald Trump et de l'administration, et qu'on est prêt à léser des Américains de leurs droits pour faire une chasse à des immigrants et des immigrants illégaux, mais des immigrants illégaux dans des États où ils ne sont pas toujours très nombreux, les immigrants illégaux. Quand tu débarques à Boston pour lutter contre l'immigration illégale, quand tu débarques à Lewiston, au Maine, pour lutter contre l'immigration illégale, ou que tu débarques à Minneapolis, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il me semble qu'il y a des cibles qui devraient être prioritaires si c'est ça l'objectif sincère. Moi, je pense que l'objectif, c'est plus une démonstration de force. C'est regarder jusqu'où on est prêt à aller. Et toi et moi, on avait discuté d'ailleurs dans une chronique, je ne me souviens pas laquelle, mais justement du changement dans les façons d'intervenir, dans la méthode du ICE sous Donald Trump. Ils effectuaient le même travail avant, puis on en entendait beaucoup moins parler. Veut dire qu'il y a des hommes qui se sont passés pour que ça se passe comme ça.
Pour les gens qui n'étaient pas avec nous lorsqu'on a parlé de ça, moi, je les ai vus rentrer dans un restaurant à New York. Est-ce que c'était le ICE ou la police de l'immigration, comme on les appelait? Je ne sais pas. C'était-tu municipal? C'était-tu nationale, je ne sais pas, mais sont rentrés, ils étaient affichés, immigration, police, puis c'était très discret. Ils ont scanné du regard toutes les gens qui étaient dans le restaurant, se sont dirigés vers les cuisines arrière tout en demandant à parler à un gérant. Le gérant les a amenés dans les cuisines arrière, puis on n'a pas entendu parler. Ils ne sont pas rentrés en criant, ils ne couraient pas après personne, ils n'ont pas insulté personne, puis tout le monde a vaqué à ses occupations. J'ai continué de manger, puis je me disais, bon, ben s'il y a quelqu'un qui est illégal, ben il va se faire sortir par la porte arrière, puis c'est probablement ce qu'ils ont fait parce que j'en ai pas entendu parler. Mais ça, à mes yeux, à moi, une police de l'immigration, c'est utile, là. T'sais, s'il y a des gens qui sont illégaux, s'il y a des gens qui commettent des gestes qui sont criminels, puis qui se font arrêter, puis qui se font déporter, aucun problème avec ça. Mais de courir après des femmes et des enfants dans la rue, être habillé de façon disparate, comme des voyous, comme des bandits, avoir un vocabulaire qui est particulier, un vocabulaire raciste, alors que l'Américain à qui il est en train de parler, il est né en sol américain, puis il est noir. C'est pas un défaut être noir, là, mais pour un agent du ICE, ça peut l'être. Je trouve ça totalement atroce. Voilà, puis j'ai l'impression que c'est un caillou dans le soulier de Trump. On va s'en aller aux midterms, mais c'est même plus 30 % des Américains qui aiment bien la police ICE. Là. Je pense qu'on est en train de diminuer encore, là.
Et rappelons-nous, Yannick, quand tu dis « c'est un caillou dans la chaussure », c'est énorme. Là. C'est un des sujets qui a fait, un des thèmes de campagne qui a fait élire Donald Trump. Il y avait l'économie, bien sûr. On disait sous Joe Biden, c'est terrible. Que ce soit vrai ou pas, c'est la perception qu'on avait. Donc, on a dit « Trump va faire une bonne job ». Si on regarde encore aujourd'hui, que ce soit vrai ou pas, donc, il faudrait regarder plein d'indicateurs, mais les gens ont l'impression qu'économiquement, ça ne va pas mieux sous Donald Trump. Ce serait peut-être même pire. Donc, il y a l'économie. Mais l'autre gros sujet, c'était l'immigration. Et ça, quand je te disais, je rejoins certains des partisans de Donald Trump, l'immigration illégale, là, j'en parlais dans mes cours il y a 30 ans déjà. Ça fait longtemps que c'est une problématique, et cette problématique-là est devenue de plus en plus complexe et lourde avec le temps. Donc, je comprends les Américains qui disent qu'il faut s'attaquer à ce problème-là, puis on avait l'impression que les démocrates étaient trop mous. Même si Barack Obama a sorti du territoire plus d'immigrants illégaux que Donald Trump, on avait l'impression que les démocrates étaient trop mous. Mais là, ce qu'on voit, c'est les gens qui ont voté pour Trump en disant « lui, il va y aller au bat, hein? Lui, il va aller au front, puis il va faire ce qu'il dit », là, ils se rendent compte que, oups, dans ce qu'il dit, il nous manquait des détails. On n'avait pas entendu ça durant la campagne, puis on ne pensait pas, entre autres, que ICE défierait la loi. Il y a un nombre de causes assez impressionnant qui se retrouvent devant les tribunaux et qui impliquent la façon dont ICE se comporte depuis le début. Donc, c'est pas rien. Les tribunaux aux États-Unis, présentement, ils font leur job. Donc ensuite, ça se déplace sur le terrain politique. Est-ce qu'il y a une mobilisation de la part des citoyens? Et qu'est-ce que font les deux formations politiques dans le contexte actuel? Mais les tribunaux font leur travail. Et quand Trump déborde, ou quand il triche avec la loi, ou quand il est à la limite, on le lui rappelle, et ça fait de nombreuses fois qu'on lui dit autour de ICE que ce qu'on fait n'est pas correct. Ça a été la même chose avec la Garde nationale.
Autre dossier qui implique Donald Trump, les États-Unis. Bon, on a été kidnapper le président d'un pays pour le faire passer en cour. C'est Nicolas Maduro qui était au Venezuela. Là, le Venezuela a eu un gouvernement de remplacement. Donc, quelqu'un qui est là, qui a été mis en place, qui a renégocié avec les Américains son poste avant de prendre la place. Venezuela, comme il collabore avec les Américains, semble ne plus envoyer de pétrole à Cuba, ce qui fait que Cuba est en train de s'assécher. On a lancer un message du côté des compagnies aériennes au Canada, c'est-à-dire si vos avions arrivent chez nous, il faudrait qu'ils s'assurent d'avoir assez de pétrole pour repartir parce qu'on ne sera pas capable de vous en donner. Bon, pour nous autres, c'est du tourisme. Il y a bien des gens déçus autour de nous, mais n'en demeure pas moins que la situation n'est vraiment pas rose pour les résidents de Cuba. On parle de famine, on parle de problèmes avec l'électricité, on parle de maladies. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les touristes qui vont continuer d'aller là, parce que si la nourriture est à un seul endroit, un père de famille qui n'est pas capable de nourrir sa famille va tenter d'aller chercher la nourriture par lui-même. C'est une catastrophe actuellement, ce qui arrive à Cuba. Est-ce que Trump peut se pencher là-dessus? Est-ce qu'il y a un objectif derrière ces agissements?
Quand on parle de précarité pour le pétrole, entre autres, moi, je me souviens, il y a déjà des années, ça fait longtemps que ça dure, hein? Je voulais pas rester dans les tout inclus. J'avais passé quelques jours là où j'avais réservé, puis ensuite, je me suis loué une voiture et j'ai traversé le pays par les petites routes et j'étais gêné d'avoir les moyens de mettre de l'essence dans cette voiture-là parce que c'était réservé aux touristes et les habitants de l'île en avaient même pas. Donc, c'est quoi, 30 % du pétrole qui venait du Venezuela? Là. Ouais. Ce qu'on craint actuellement, c'est ni plus ni moins qu'une crise humanitaire. Ouais. Maintenant, quand tu dis que Trump peut faire quelque chose, quand j'ai, parce qu'elle est disponible depuis une couple de mois, quand j'ai lu la nouvelle politique de sécurité nationale des États-Unis, c'était très clair que ce que Donald Trump voulait, c'est séparer le monde en grandes sphères d'influence. Donc, grosso modo, les Russes puis l'Ukraine, on va négocier ça, mais à partir du moment où on va s'en parler, on n'ira pas jouer dans vos plates-bandes. On va laisser à la Chine, sauf quelques zones précises, on va laisser à la Chine sa zone d'influence, mais venez pas jouer chez nous. Mais chez nous, pour Donald Trump ou pour cette administration-là, c'est les Amériques au grand complet. Donc, chez nous, ça inclut, ben, vous ne touchez pas au Venezuela, vous ne touchez pas à Cuba. Mais grosso modo, c'est ni plus ni moins que des dépendances américaines maintenant. Ça peut s'expliquer logiquement si on oublie ben, tout ce qui est le droit international. Donc, si on regarde les intérêts américains d'avoir le Venezuela, d'avoir Cuba stratégiquement pour les ressources naturelles, c'est vrai qu'on peut assurer une plus grande sécurité, c'est vrai qu'on peut aller chercher de l'approvisionnement en pétrole, de l'approvisionnement en terres rares. Mais est-ce que ça donne le droit aux États-Unis de considérer, c'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, est-ce que ça donne le droit aux États-Unis de se considérer comme propriétaire, finalement, de ces endroits-là? C'est ça que Donald Trump pourrait faire actuellement. C'est que l'administration a une stratégie qui est très, très, très nette. C'est celle de mettre en place des gouvernements qui vont être favorables aux États-Unis. Parce que les Américains, je pense pas qu'ils soient intéressés eux-mêmes à gérer ces territoires-là. C'est pas le genre de dossier qui intéresse Donald Trump. Mais on veut s'assurer d'avoir la main mise sur ces territoires-là. Mais si on fait ça, ben oublions tout ce qu'on a mis de cadre légal depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors souvent, on dit « Ah, il y a encore des guerres, il y a encore des guerres ». Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, toute proportion gardée, quand on revient dans l'histoire, c'est une période où on a eu la guerre froide. Mais depuis ce temps-là, il y a quand même un nombre de guerres relativement faible comparativement à ce que c'était pendant des années. Donc, comment on est parvenu à ça? Puis c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours simple. On est parvenu à ça en imposant un certain nombre de règles du jeu que la plupart des pays respectent. Mais les États-Unis se comportent présentement exactement comme la Russie le fait ailleurs sur la planète. Donc, la Russie a fait quoi en Ukraine par deux fois, en Crimée? Ça nous appartient. On rentre là, puis on y reste. Et là, on est dans le Donbass, et c'est exactement ce qu'on dit. Non, ça, c'est des zones pro-russes. Là. On va aller chercher, hein, c'était supposément la lutte aux nazis. Mais ce qu'on veut, c'est récupérer du territoire. On pense qu'historiquement, ça nous appartient. Puis on défie l'ordre international en entrant illégalement dans des États souverains. Ce qu'on a fait au Venezuela, là, j'avais aucune espèce de sympathie pour le gouvernement de Maduro. Mais essaye d'imaginer la situation ici. Est-ce qu'on peut imaginer les Marines américains ou le SEAL Team 6 ou n'importe quelle escouade d'élite prendre Mark Carney puis l'envoyer aux États-Unis? Je veux dire, mais c'est ça la comparaison. Le Venezuela est un État qui est indépendant. Est-ce qu'on pouvait, au nom de principes de sécurité, intervenir? Pas de cette façon-là. Pas si on respecte les règles du jeu que les Américains, d'ailleurs, ont mis en place ou contribué à mettre en place depuis la Deuxième Guerre mondiale.
On regarde ça aller pour ce qui est de Cuba. Là, bon, on le sait, là, pour ce qui est de la population à Cuba, ça n'a jamais été un endroit très, très riche. Là. Est-ce que Donald Trump veut s'approprier Cuba à long terme? En faire un genre de beau resort, là, 5 étoiles, puis parce qu'on le sait, pour quiconque a été à Cuba, là, c'est les plus belles plages qu'on peut avoir au monde, là, quoi qu'il y a d'autres endroits magnifiques qui
ouais,
existent.
Mais c'est des belles plages.
Mais le jour où les Américains débarquent là puis décident de mettre leurs hôtels avec des casinos et tout ça, ça va être un endroit qui va être extrêmement prisé. Est-ce que Donald Trump aurait des visées de cette façon-là?
Moi, je pense que ce qu'on veut surtout, c'est protéger des intérêts stratégiques. On a une île dont le régime est opposé au nôtre à quoi? Même pas 100 kilomètres des côtes de la Floride. Donc, c'est un intérêt stratégique. Maintenant, ce que tu évoques, ce serait une suite logique, je pense, et ça a déjà été ça. Il faut se rappeler qu'avant Fidel Castro, Che Guevara, c'est une période qui est entrée un peu dans la mythologie, là. Mais on appelait Cuba ou la Havane, en tout cas, le bordel des États-Unis. Donc, c'est des intérêts américains. La mafia américaine était là, de grandes compagnies américaines.
Avec un turbo-boat, c'est facile de se rendre là.
Non, voilà. c'était ça avant la Révolution.
Ouais.
Donc, on a eu une forme d'ouverture sous l'administration Obama en disant, finalement, les fameuses sanctions puis les blocus là, qu'on impose depuis, grosso modo, la crise des missiles, depuis 1962, début des années 60, ça n'a pas fonctionné. rétablissons finalement, puis travaillons sur du moyen et du long terme à stabiliser un peu cette relation-là entre les États-Unis et Cuba. La première chose que Donald Trump a faite en arrivant pour Cuba, c'est de mettre fin à ce que Barack Obama avait mis en place sur l'île. Mais que ce soit Obama ou Trump, on en serait peut-être venu à ça. C'est des intérêts américains qui vont profiter, tu l'as très bien souligné, d'installations qui sont spectaculairement belles. Mon gros problème quand j'allais à Cuba, c'est dès qu'on sort des resorts ou dès qu'on sort des tout-inclus, je me souviens encore d'être sorti de l'hôtel puis qu'un père dans le village voisin m'offre sa fille, m'offre une heure avec sa fille en échange de dollars américains. Donc, le choc est brutal puis on se sent un petit peu cheap quand on fait ça. Mais au plan économique, l'intérêt est encore là. Donc, qu'on stabilise d'une manière ou d'une autre la relation avec Cuba, je pense que ça, c'est... Et là, il faudra voir comment on va gérer ça. Mais ça va être une tentation américaine qui va être très forte. Mais pour répondre brièvement à ta question, moi, je pense que ce sont d'abord des intérêts stratégiques, puis assurer une mainmise des États-Unis en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Là où la Chine a fait des progrès, parce que je parle de la Russie, mais la Chine a fait des progrès remarquables en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Quand les États-Unis délaissent un territoire stratégiquement, les Chinois arrivent ou les Russes arrivent.
Qu'est-ce qui empêche les Russes de fournir Cuba en pétrole présentement?
Ah! Là, on est à la limite entre la réponse fiable et la réponse complotiste. Je te répondrais, ça inclut les deux, les liens entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc, on en sait très peu de ce qui se dit entre les deux hommes. Si je jouais le côté complotiste, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas de manière informelle un message de Donald Trump à Vladimir Poutine? On te laisse aller présentement en Ukraine parce que les Américains ne font pas grand-chose de ce côté-là. Ou en tout cas, il n'y a rien pour garantir la sécurité de l'Ukraine blindée dans les négociations, dans ce qu'on entend actuellement. Donc, est-ce qu'on pourrait se réserver justement des chasses gardées? On va voir, parce qu'ils étaient mêlés au dossier vénézuélien aussi, les Russes, et on sait qu'ils sont très proches de Cuba également, puis ils l'ont été encore plus historiquement. Si Cuba a pu traverser la guerre froide, c'est en partie parce qu'on faisait affaire avec les Soviétiques, en bonne partie parce qu'on faisait affaire avec les Soviétiques. Donc, est-ce que c'est un mélange de diplomatie, de stratégie ou d'entente entre les deux chefs? Moi, je trouve qu'il y a bien peu de choses qui émanent publiquement des rencontres entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
On aura l'occasion d'en rejaser anyway de cette relation-là dans les prochaines chroniques avec Luc Laliberté. On va faire une courte pause. Merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle qu'on est avec le chroniqueur politique Luc Laliberté et on revient dans quelques secondes.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Il n'y a pas une époque qui est parfaite et même Radio-Canada tombe dans le piège. Là, ça prend des fous. Il faut les piger dans le bac à fous. Il faut sortir ce qu'il y a de plus exagéré, de plus extrémiste. Puis il faut faire semblant que c'est ça le way to go en 2026. Non merci pour moi. J'essaye d'aller de l'autre bord, je sais pas, d'avoir une conversation intelligente entre gens qui voient pas la vie de la même façon, mais qui sont pas dans les extrêmes. Ben quand je vais perdre ma job, je serai pas nécessairement déçu. Je vais me dire, ben au moins j'ai essayé de tirer à couvert du bonbon. L'extrême sang.
Vive l'extrême sang.
Vive l'extrême sang. Yes! Ouais! Boulevard 102.1, l'extrême sang, c'est nous autres.
Le Pit Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h45.
Cet hiver, vivez une expérience complètement nordique sans quitter le centre-ville. Le village nordique du port de Québec vous attend jusqu'au 8 mars pour découvrir la pêche blanche. Sur place, des igloos géants, de l'animation, la meilleure poutine de chez Mag et surtout, rien à apporter parce que l'équipement est fourni. Cette semaine, écoutez Gravel dans le retour pour courir la chance de gagner votre accès double au village nordique plus une nuitée à l'hôtel 71 d'une valeur de 450 $. Avec Boulevard 102.1 et le village nordique, un hiver qui sort de l'ordinaire vous attend.
C'est la grande liquidation d'hiver chez Sale. Jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection de vêtements et de chaussures. Sale, votre destination plein air, 100% québécoise.
Besoin de plus d'espace, de confort et de sécurité cet hiver? Découvrez le tout nouveau Volkswagen Taos 2026. En ce moment, profitez d'un taux de location avantageux à partir de 2,99%. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un Volkswagen, obtenez une réduction supplémentaire de 0,5% sur votre taux, en plus de recevoir 2 ans d'entretien gratuit sur votre nouveau Taos 2026. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Ici Guillaume, directeur des ventes chez Profab. Vous pensez construire une maison ou un chalet en 2026? Profitez de notre méga promotion pendant les salons de l'habitation et venez rencontrer notre équipe de conseillers. C'est LE moment idéal pour donner vie à votre projet. Tous les détails au profab.ca.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous êtes locataire? Voici trois conseils en cette période de renouvellement de bail. D'abord, assurez-vous d'avoir trouvé votre nouveau logement avant de résilier votre bail actuel. Ensuite, si vous avez besoin d'accompagnement, communiquez avec le service d'aide à la recherche de logement le plus près de chez vous. Enfin, il est important de vous informer sur vos droits. Un moratoire pourrait vous protéger actuellement contre certains types d'évictions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Vendredi à Télé-Québec, ça va être épique.
Non, Anaïs, il va te rattraper!
Let's go, Anaïs!
C'est l'aventure qui dépasse toutes les limites.
Ah ouais, c'est facile!
J'ai plus de bras. Ah.
Des trios courageux qui sont prêts à tout dans des défis plus grands que nature au cœur des plus belles régions du Québec.
Wow, c'est extraordinaire.
Une compétition où tout peut basculer en un instant.
Abandonne pas, jamais!
Auront-ils ce qu'il faut pour devenir de grands vainqueurs?
C'est pas fini, tant que c'est pas fini!
Épique, vendredi 20h, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, t'invite à faire la fête à la zone Loto-Québec. Découvre le Palais de Bonhomme, où chaque pièce raconte une légende, et lève un verre à l'hiver au bar de glace SAQ, où il y a même un DJ en plein milieu du bar. Viens aussi vivre nos 5 soirées musicales, nos têtes d'affiche, Alicia Moffett, le Country Storm avec Francis de Grandpré, Matin, Qualité Motel et le Beach Party Weekend 91.9. Procure-toi ton effigie dès maintenant au coût de seulement 39$ plus taxes dans les succursales Brunet participantes et au carnaval.qc.
Grâce à nos petits bouffeurs de prix IGA, profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points Saint-Plus. Jusqu'au 11 février, les croustilles Lay's sont à 2,33 $ pour 177 à 235 grammes. IGA, vive la paix d'esprit. Valable dans les magasins participants. Détails à IGA.net.
Depuis 2013, la Voie Maltée apporte le meilleur du Saguenay à Québec. Bières artisanales, cuisine créative, vibe authentique. C'est du local qui goûte vrai. En couple ou entre amis, venez vivre nos 5 à 7 qui deviennent des souvenirs mémorables. La Voie Maltais sur Pierre Bertrand.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec au 2400 avenue Dalton. Viens découvrir le plus grand choix de véhicules d'occasion au Québec. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi et dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on l'a direct.
En février, Céramix fête le mois de la réno. Consultation gratuite avec nos designers pour faire le plein d'idées. Et profitez aussi de 30% de rabais sur les planchers chauffants et thermostats programmables gratuits. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix 430 Saint-Sacrement-Céramix.ca.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, hey, Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer. Hey,
hey. Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts. Même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On passe la soirée avec le chroniqueur politique Luc Laliberté. On parle de politique américaine. Maintenant, Luc, ça va bien jusqu'à maintenant?
On a du temps pour jaser. Wow. C'est avec toi que je le fais, donc très bien de mon côté.
À tous les soirs, on jase pendant 60 minutes. La plus belle job du monde. Je ne suis pas pressé par le temps. Je n'ai pas de réalisateur qui me tape sur la tête. Marceau, tu as 60
minutes.
Ouais, ils me disent, oui, c'est ton nom de famille. Marceau, voilà. Tu as 60 minutes, amuse-toi. Puis je reçois des gens d'un peu partout. Des fois, c'est des humoristes, des fois, c'est des comédiens, des fois, c'est des acteurs politiques, des fois, c'est des chroniqueurs politiques. Puis on s'amuse avec une diversité de sujets. Merci beaucoup au patron de me permettre de faire ça, soit dit en passant. Et j'espère être là longtemps. Fait que c'est un message que je passe, Luc.
Écoute, je seconde.
Politique américaine, le Save Act que les Républicains veulent pousser au Congrès. Qu'est-ce que cette patente-là?
Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en théorie, c'est une très, très bonne idée. Dans la réalité, la meilleure formule que j'ai trouvée, c'est une solution qui cherche un problème. Donc, le Save Act, c'est une vieille lubie des Républicains. Et en apparence, ça semble très, très, très noble et on se demande qui peut être contre la vertu. Le Save Act, et je répète, donc c'est une vieille lubie ou une vieille manie, c'est l'idée, c'est qu'aux États-Unis, il y aurait de la fraude électorale. Donc, ça a pris de l'ampleur tout ça quand Donald Trump a dit « je me suis fait voler l'élection ». Ce qu'il entretient encore d'ailleurs là, comme mensonge, il y a eu une fraude incroyable. Mettons les choses en perspective ou mettons les choses, rappelons les faits, le système américain est un des meilleurs systèmes sur la planète quand vient le temps d'enregistrer les votes. Il n'y a jamais d'élection parfaite où il n'y a pas eu de fraude. Mais c'est marginal, c'est infinitésimal ce qu'il y a eu de fraude aux élections américaines. Mm-hmm. Les trois dernières élections impliquaient Donald Trump, puis on arrive à la même conclusion dans les trois élections. On est allé devant les tribunaux, on a fait des recomptages. Les élections ont été clean. Qui gagne, qui perd, c'était clean. C'était propre comme élection. Mais donc, lui dit, on a ça, et maintenant, je demande aux Républicains d'y aller avec le Save Act. Et ça vise quoi? Là, on a l'impression que, quand on parle de fraude, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas américains qui votent aux États-Unis. Soyons clairs en partant, si aux États-Unis, vous n'êtes pas citoyen américain, vous ne votez pas. Et on vous demande déjà de valider votre citoyenneté. Aux États-Unis, autre différence majeure avant d'arriver au Save Act, c'est que toi et moi, quand on a eu 18 ans, on est apparu sur les listes électorales.
Oui.
Ça se fait automatique. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Il aurait fallu que toi et moi, on fasse une démarche supplémentaire pour aller s'enregistrer sur les listes électorales comme électeur. Et là, tu dois faire la preuve de ta citoyenneté. Ce que veulent maintenant les Républicains, c'est changer le genre de document dont on a besoin pour voter aux élections pour éviter la fraude. Je répète, il n'y en a pas de fraude. Donc, en même temps, qui est contre la vertu? Est-ce qu'on veut que les gens s'identifient et qu'ils prouvent leur citoyenneté? Bien sûr que oui. La clé de ce que veulent faire les Républicains réside dans les pièces qu'on demande maintenant. Donc, on voudrait que ce soit, pour prouver sa citoyenneté, un passeport. La majorité des Américains n'ont pas de passeport. Chez nous, est-ce que tout le monde a son passeport? Je serais curieux. Non, j'ai le mien, mais c'est autant pour le travail que pour le plaisir que j'en ai eu besoin, donc je l'ai demandé. L'autre, c'est ton certificat de naissance. Prenons juste le certificat de naissance. 84 % des femmes, en moyenne, on est au-dessus de 80 % des femmes aux États-Unis qui changent leur nom pendant leur vie, quand elles se marient. Donc, quand vient le temps d'aller voter aux élections, le nom de l'époux correspond pas, donc qui est devenu leur nom officiel de par le mariage, correspond pas au certificat de naissance.
Ah.
Donc, ça pose tout un problème parce qu'on n'arrive pas à démontrer sa citoyenneté, c'est des coûts puis c'est des démarches supplémentaires. Quand on parle de certificat de naissance et de passeport, ceux qui sont exclus essentiellement ou ceux qu'on touche, c'est pas insurmontable. Mais dans les deux cas, les clientèles qui ont le plus de problèmes à identifier leur identité, ce sont les Américains les plus démunis. Et parmi les plus démunis, il y a des Blancs. Mais majoritairement, ce sont des hispanophones ou ce sont des Noirs à qui on demande des étapes supplémentaires pour aller valider leur autorité, leur identité. Dans certains cas, il faut savoir aussi comment ça marche sur le terrain. Dans certains cas, il faut traverser son État pour arriver à un bureau où on peut émettre la pièce. Et les heures d'ouverture, par exemple, du bureau changent. Donc, tu habites à l'autre bout de l'État, il faut que tu prennes une voiture, il faut que tu prennes l'autobus, que tu manques du travail, que tu ailles chercher cette pièce-là et tu n'es pas sûr que ça va être ouvert quand tu vas y aller non plus. Dans les cas les plus caricaturaux, là, ça peut aller jusque-là. En Alaska, il y a des gens qui vont avoir à prendre leur avion pour aller chercher cette pièce-là. Donc, ça donne une idée des démarches. Donc, le Save Act s'est passé à la Chambre des représentants. Ça vise à assurer qu'il n'y a pas de fraude aux États-Unis. Ça vise à assurer que tout le monde a validé son identité. Sachez que ça se faisait déjà qu'il n'y a pas de fraude actuellement, pas de fraude majeure qui nécessite une réforme comme celle-là. Mais si jamais le Sénat venait valider ce que la Chambre fait, parce qu'il faut que les deux chambres votent ensemble pour qu'on envoie ça au président et que ça devienne une loi ensuite, si le Sénat vote ça, c'est les plus démunis, finalement, qui vont payer le prix de cette réforme-là. Et en général, quand on regarde l'échantillonnage des gens qui vont être touchés, ces gens-là votent plus souvent démocrates que républicains. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais c'est une solution qui cherche un problème. Ce qu'on entretient, c'est l'idée qu'il y a une fraude électorale épouvantable aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Et prenez pas ma parole, ceux qui se disent « Ah, il doit voter démocrate », c'est un prof d'histoire en plus. Hein. On est supposément très, très à gauche.
Ben oui, j'ai vu ça en fin de semaine. Là. Oui. Jonathan, le prof, non. Qui dit que les profs d'histoire sont tous à gauche parce qu'eux détiennent la vérité.
Si jamais j'étais à gauche, mon nom, c'est la liberté, pas la vérité. Donc, mais allez vérifier les statistiques. Donc, ouais. Ça existe. Là. Il y a des organismes indépendants qui fournissent des statistiques sur les fraudes électorales. En passant, c'est même des agences fédérales qui relèvent de l'administration Trump puis qui se trouvent à valider le contraire de ce que Donald Trump affirme. Ça ne s'invente pas. Mais donc, il n'y a pas de fraude. Mais surveillez ce qu'il va y avoir autour de ça, puis on veut que ça bouge avant les prochaines élections, bien sûr.
As-tu idée de quoi va être ta vie lorsque le mandat de Donald Trump sera terminé? Est-ce qu'elle sera plus douce? Est-ce que les gens vont t'appeler encore? Est-ce qu'on va avoir autant de choses à dire des Américains, Luc?
Écoute, pour te donner une idée, je vais répondre à ta question. J'ai longtemps pensé qu'avec l'élection de Barack Obama, j'avais atteint, entre guillemets, le top de sollicitation. Il y avait une folie, puis je me disais, OK, une fois qu'Obama va avoir été élu, là, puis qu'on va se rendre compte qu'il ne marche pas sur les eaux et qu'il y a des limites à ce qu'un président peut faire, on va être tranquille. Et il est arrivé vraiment à être plus tranquille ou plus calme avec l'État. Je pense que les États-Unis vont toujours demeurer un gros joueur, donc je vais être sollicité. Peut-être que ce sera moins haineux ou moins confrontant dans certains échanges une fois que Donald Trump sera parti.
Ben, écoute, je te le souhaite pas, ça te donne de la job, c'est le fun, là.
Et je m'amuse encore à la phase. J'y prends encore beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir aussi.
Luc Laliberté, merci beaucoup d'avoir passé 60 minutes avec nous ce soir. Je te souhaite de passer une belle soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis on te suit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec et chaque fois qu'on te voit comme chroniqueur, que ce soit à la radio ou à la télé.
Un grand plaisir, Yannick. Merci beaucoup pour l'opportunité.
Salut. Bye-bye.
Bye.
Marceau, le soir. IGA des sources présente
La Saint-Valentin. Créez sans effort un souper romantique à la maison grâce à nos bars à tartare unique. Au menu, bœuf et saumon frais, accompagnement savoureux et sauce à votre goût.
IGA des sources, des découvertes à chaque rayon.
Le tournoi Pee-wee de Québec est de retour du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Venez encourager des équipes Pee-wee de partout sur la planète. Pee-wee, tu veux être là?
Attends, tu me dis que les huîtres sont à 1$ tous les soirs?
Oui, oui, tous les soirs, dès que tu prends place au bar.
Donc, après le travail, avant un spectacle ou juste parce que j'ai envie d'huîtres, c'est toujours 1$?
Exact!
OK, là, ça change mes plans.
Ophélia sur Grande Allée, les huîtres à 1$ au bar tous les soirs. Restaurant Ophélia.com.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec au 2400 avenue Dalton. Viens découvrir le plus grand choix de véhicules d'occasion au Québec. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on l'a direct.
Les aliments Ludo, une variété de pizzas en format 9 et 12 pouces, comme celle du resto. Mais aussi la vraie sauce à la viande du bas du fleuve et d'irrésistibles pâtés cuisinés comme à la maison. Disponible dans les supermarchés participants. Pizza Ludo, décongeler, cuire, servir.
Vous êtes locataire? Voici 3 conseils en cette période de renouvellement de bail. D'abord, assurez-vous d'avoir trouvé votre nouveau logement avant de résilier votre bail actuel. Ensuite, si vous avez besoin d'accompagnement, communiquez avec le service d'aide à la recherche de logement le plus près de chez vous. Enfin, il est important de vous informer sur vos droits. Un moratoire pourrait vous protéger actuellement contre certains types d'évictions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Pour la Saint-Valentin, Cupidon s'invite à la Disco Glace. Venez patiner en duo, entre amis ou en famille et partager un moment complice sur la glace dans une ambiance festive et lumineuse. Et en venant sur le site, courez la chance de gagner une nuitée à l'hôtel d'une valeur de 400$. Tous les détails sont sur nos réseaux sociaux. Disco Glace du Port de Québec. L'amour, ça se vit aussi sur la glace.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez Miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
Boulevard. Chaque jour de la semaine, Denis Gravel et Yannick Marceau traitent des dossiers chauds du jour. Puis qui l'eût cru, ils pensent pas la même affaire.
Moreau PRS célèbre 40 ans d'expertise. Entreprise familiale et fier distributeur Sunspace Sunrooms. Moreau PRS vous offre des patios, rampes et solariums 100% canadiens. Moreau PRS, des produits faits sur mesure, durables et conçus pour résister aux conditions extrêmes.
Courbatures, stress, blessures ou objectifs à atteindre, chez Kinatex Sport Physio, il y a un professionnel pour vous. Une approche humaine et des services adaptés à votre réalité. Chez Kinatex, votre vie active, on en prend soin. Pour continuer à bouger sans compromis, visitez kinatex.com.
Les erreurs de feuilles de temps te font perdre du temps et de l'argent? Mobile Punch a un nouvel outil de communication intégrée. Une application tout en un qui centralise les feuilles de temps, les photos de chantier et les échanges entre le bureau et le terrain. MobilePunch.com, plus de 40 000 utilisateurs.
Plongez dans 888